Hello à tous, je suis Mélodie Schmaus, fondatrice de Cause, une agence digitale au service de l'impact. J'ai créé le podcast Business Positif suite à plein d'échanges avec des entrepreneurs sociaux et des chefs d'entreprise en quête de sens, et je me suis passionnée pour la question de l'impact positif comme opportunité ou contrainte business. Avec Business Positif, je pars à la rencontre de ces entreprises qui réussissent à allier rentabilité et impact et à se développer de manière pérenne. On parle de leurs histoires, de leurs stratégies, de RSE ou encore des outils digitaux qu'elles utilisent, et vous y trouvez des astuces à mettre en place concrètement dans votre structure, mais aussi de l'inspiration et de la créativité, parce que oui, ce sont souvent des personnes qui inventent de nouveaux modèles. J'essaie de poster deux fois par mois les mercredis, le plus simple est de vous abonner sur votre plateforme préférée pour être alerté dès qu'un nouvel épisode sort, et n'hésitez pas au passage à mettre 5 étoiles si le podcast vous a plu, ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, je cause avec Kevin Goujon, cofondateur de la marque de baskets solidaire N'Go Shoes, basée à Nantes. Avec Kevin, on parle de la création de l'entreprise avec son cofondateur et ami Ronan, avec 6000 euros au départ et une grande envie d'impacter. Venant du monde de l'expertise comptable, Kevin nous donne des retours d'expérience précieux en termes de gestion d'entreprise, en insistant notamment sur la gestion de la trésorerie, souvent délaissée alors qu'elle est clé. Il parle aussi de la stratégie de communication, de l'impact des actions solidaires de l'entreprise au Vietnam, ou encore de la volonté de s'emparer du sujet de la RSE en réalisant un bilan carbone et en entamant un travail de fond sur la matière première. Trêve de causerie, je vous laisse découvrir cet échange et les conseils précieux que Kevin nous partage. Merci beaucoup Kevin de me recevoir virtuellement, j'ai envie de dire.
Merci à toi.
Je suis ravie qu'on ait cet échange aujourd'hui pour parler de cette jolie entreprise que tu vas nous présenter et je te propose de commencer par me dire concrètement quelle est cette activité de, on dit NGO, N'Go Choose,
N'Go
Choose.
Ouais.
Je te laisse m'en parler et me dire d'où t'es venue l'idée et comment de ton parcours où t'étais pas du tout là-dedans avant, tu t'es lancé dans la basket solidaire.
Et donc N'Go Shoes a maintenant plus de 3 ans, donc c'est Ronan et moi qui l'avons monté. Effectivement, ça ne vient pas de nos parcours respectifs, puisque moi, j'ai travaillé dans un cabinet d'expertise comptable, et Ronan, lui, travaillait pour une ONG au Vietnam. Donc pas de rapport direct avec la mode, la basket, le design, rien de tout ça, c'est ce qu'on a appris sur le terrain. Et en fait, c'est surtout les voyages qui nous ont amenés à créer N'Go. On a fait un premier voyage à 18 ans avec Ronan, on est parti au Pérou pendant 2 mois, pour construire une crèche dans un bidonville, on était logés en famille d'accueil, etc. Et durant ce voyage, c'est là où on a découvert l'artisanat ethnique et aussi le goût du voyage. Et ensuite, tous les ans, je repartais régulièrement, et Ronan aussi en voyage. Et c'est après une dernière aventure au Mexique, où encore une fois, j'ai découvert cet artisanat ethnique. Je passais beaucoup de temps sur les marchés artisanaux de créateurs, qu'est venue l'idée de créer quelque chose autour de ça. Mais au début, on ne parlait pas du tout de chaussures. On parlait d'un projet équitable, d'un projet solidaire, mais pas du tout de chaussures. Donc je suis revenu avec une idée un peu vague du Mexique, qui est de travailler autour de cet artisanat de manière équitable, d'en faire un projet, d'avoir aussi... le but, c'était de, si l'entreprise fonctionne, que toutes les parties prenantes de l'entreprise fonctionne avec et que ce ne soit pas seulement unilatéral. Et oui. Si on fait des bénéfices du chiffre d'affaires, qu'une partie soit reversée à une association.
Oui, c'est parce que tu dis que du coup, c'est par les voyages. Donc, c'est que vous aviez tendance à beaucoup voyager. Donc, sans doute que c'est la rencontre aussi qui vous plaisait là-dedans. Mais qu'est-ce qui fait que particulièrement l'artisanat, alors au Mexique, là dont tu parles, en tout cas à la genèse du projet, t'a marqué ? Est-ce que tu saurais dire ce qui t'a touché ou ce qui a fait que tu as commencé à te projeter là-dedans ?
Alors, je pense que personnellement, c'est que je suis très, très, très mauvais de mes mains. Manuellement, je suis très mauvais. Et je pense que du coup, j'ai une certaine admiration pour tous les gens qui ont, eux, ce savoir-faire. Et donc, de me balader sur les marchés artisanaux, de voir tous ces gens qui avaient de multiples savoir-faire. Et esthétiquement, en plus, j'adore. Moi, je suis revenu avec de la déco, avec des motifs ethniques. Des vêtements, enfin bref, plein de choses en tout genre, plein de cadeaux, etc. Et je pense que c'est à la fois le côté esthétique que j'adorais et le côté fait main, savoir-faire que je trouvais remarquable. Et c'est ça qui m'a marqué et qui fait que je suis revenu avec cette idée du Vietnam. Finalement aussi tout ça, le contexte était que il y avait une volonté de retrouver du sens dans ce que je faisais. Oui. On l'entend beaucoup, hein, surtout notre génération. Et c'est vrai que j'avais 25 ans et je me suis dit, mince, je ne peux pas continuer à n'attendre justement que ces voyages que les vacances, que les week-ends. Si toute la semaine je m'ennuie, que je trouve pas de sens, que ça,
De motivation,
de
quoi, aussi.
motivation, ouais, c'est ça, ça va pas le faire, quoi. Donc c'était une recherche, voilà, d'adrénaline et de sens qui a amené à l'entrepreneuriat.
Et en quelle année c'était ça?
Ça, c'était en 2016.
Ok.
Donc 2016, et quand je suis rentré du Mexique, j'en ai parlé à Ronan. Et Ronan, lui, venait de passer 2 ans au Vietnam, où il avait travaillé pour une ONG. Et alors au début, il m'a pas dit non, il m'a pas dit oui tout de suite. Je lui ai parlé du projet, il m'a dit ouais, ça me tente bien, mais moi j'ai envie de repartir pour une ONG, parce qu'il avait, lui, il avait encore plus la bougeotte que moi.
Ok.
Et il avait envie de repartir dans un autre pays. Et les choses ont fait qu'il n'a pas trouvé. Et du coup, il est revenu vers moi peu de temps après. Il m'a dit, bon, écoute, c'est peut-être un signe. Moi, je connais le Vietnam, j'aime ce pays, il parle la langue, etc. Et
Ok.
il m'a dit, bah voilà, j'ai des contacts avec des artisans, je repars au Vietnam et on se lance là-bas. Et du coup, c'est ce qui fait que
Ah,
on
est-ce
s'est
qui fait que vous
lancé
êtes parti
là-bas.
côté Vietnam plutôt que Mexique? Parce que toi, tu connaissais le
Exactement.
Vietnam ou pas?
Du tout. Moi,
Ok.
avant qu'il m'en parle, j'y avais jamais été. Lui, il connaissait extrêmement bien, et c'était important pour nous d'aller dans un pays qu'on connaît bien, parce qu'on voulait surtout pas être le projet où on gère depuis la France.
Oui.
Enfin, il fallait que pour nous ça fasse sens, qu'il y ait des valeurs, et surtout en fait le côté voyage qu'on aimait, c'était la rencontre, le côté multiculturel, et donc pour nous ça ne pouvait marcher que si on était sur place.
Bien
Et
sûr.
du coup, qu'on pouvait, comme c'est le cas aujourd'hui avec les artisans, créer des vraies relations de confiance, qui est une relation humaine, pas que une relation de travail. Et donc, il fallait être sur place. Moi, j'aurais été prêt à ce moment-là à aller en Amérique latine s'il avait fallu le faire. Mais voilà, il se trouve que Ronan connaissait le pays et il avait des contacts là-bas. Donc, tout se goupillait bien
Et
pour
donc,
faire ça comme ça.
concrètement, donc lui, il avait plus son boulot d'avant et puis au final, il l'avait pas retrouvé, donc il part. Toi, tu avais ton boulot encore.
Ouais.
Comment ça s'est passé? T'as posé ta dème en disant ça y est, je
Pas
me
tout de
lance, et t'es
suite.
parti là-bas. Ouais. Comment t'as géré la transition de l'entrepreneur qui se lance, qui est toujours une phase particulière?
C'est ça exactement. Elle s'est gérée petit à petit. Au début, j'ai gardé mon boulot et à plein temps. Donc moi, j'allais, du coup, j'ai fait en sorte de globaliser tous mes congés. Et j'ai passé, de mémoire, j'ai dû passer un mois ou deux au Vietnam sur le premier été 2016,
Okay.
pour aller justement travailler avec Ronan sur le projet, rencontrer différentes personnes, etc. Mais c'était surtout Ronan finalement qui avançait sur la recherche de fournisseurs, de partenaires. Et encore aujourd'hui, c'est lui
Et vous aviez
qui
déjà
suit
l'idée
la
de la
production.
basket? Pardon.
Et non, c'est venu après. Quand, au
Ok.
moment où lui part, on n'a pas encore l'idée de la basket. On a
Ok.
une idée d'artisanat, mais qui peut être sur de la déco comme du prêt-à-porter. Et il se trouve que tous les contacts qu'on a nous ramènent vers la basket parce que le Vietnam est un pays producteur de basket. Et parce que on avait encore là aussi envie d'aller vers quelque chose qui nous animait. Et aussi, en n'étant pas du milieu du design, il fallait aller vers quelque chose
Oui.
où on se voyait bien, on avait un minimum de connaissances, et on était tous les deux fans de basket, donc on se voyait beaucoup plus designer une basket qu'un canapé ou j'en sais rien, ou un coussin, tu vois. Donc
OK.
voilà, on s'est lancé par la basket, par envie et par opportunité aussi liée au réseau de Ronan. Et donc on a mis environ un an entre le moment où Ronan repart au Vietnam et le lancement de l'activité via une campagne de crowdfunding en avril 2017.
D'accord. Et donc du coup, comment ça se passe au niveau de la campagne de crowdfunding? Parce que c'est ça qui fait vraiment le premier pas pour l'entreprise. Comment ça se passe? Comment vous l'organisez? C'est quoi les résultats? Et du coup, c'est quoi la suite? C'est-à-dire une fois qu'elle est lancée, vous lancez la production, j'imagine?
Ouais. Alors, il y a eu un peu deux départs dans l'entreprise, parce que du coup, donc, comme je te disais, je suis resté à plein temps dans mon boulot. Après, j'ai réussi à passer en mi-temps. Et ensuite, enfin, j'ai eu ma rupture conventionnelle pour partir. Et c'est vrai que le moment où j'étais pas encore à plein temps, ça se ressent forcément sur l'entreprise. Et donc, cette première campagne de crowdfunding a bien marché, hein. On a dépassé notre objectif. On a lancé une première production. On a commencé à vendre sur nos sites internet, puis dans quelques magasins. Et finalement, il y a eu un deuxième départ fin 2018 avec une nouvelle campagne sur Ulule, où là, on a lancé un nouveau produit, où on a pu travailler avec un designer, on a pu, même la vidéo, on a travaillé avec un prestataire, etc. Finalement, on s'est servi de cette première année, un peu on va dire, on était à, enfin, en tout cas, moi, j'étais à mi-temps, pour se servir de cette expérience, de travailler, de se professionnaliser et de relancer une nouvelle campagne avec une nouvelle collection qui est aujourd'hui notre best-seller, puisque c'est notre collection en cuir qui cartonne le plus. Donc, il y a eu un peu de départ et c'est vraiment ce deuxième départ qui a fait croître l'entreprise. Ouais, clairement, ça fait décoller depuis ce moment-là.
Et alors, du coup, est-ce que tu peux me raconter un petit peu, donc je comprends mieux d'où vient cette notion de travailler avec une minorité ethnique au Vietnam particulière, donc ça doit être, j'imagine, la connaissance de Ronan. Ouais. Est-ce que tu peux me dire, cela dit, comment vous avez concrètement envisagé ce partenariat solidaire, puisque vous parlez vraiment d'un partenariat solidaire, et comment il se traduit concrètement? Là, il y a des ventes, il y a un chiffre d'affaires, ceux qui achètent, c'est plutôt des Occidentaux, c'est plutôt en France, ou pas d'ailleurs, en Europe.
Europe. Alors, comment ça s'est fait? Donc, au moment où Ronan repart, on a orienté les recherches vers d'abord une coopérative d'artisans et une association, ONG, pour avoir un partenariat solidaire. Donc, pour les artisans, on a travaillé avec différentes coopératives sur le domaine du tissage à la main. Donc, il fallait que ça réponde à des questions techniques, mais aussi de confiance et de façon de travailler. Et les associations, on en a rencontré plusieurs. On a fait un appel d'offres, en fait. On recherche une association d'un projet qui nous tient à cœur pour l'aider sur le long terme. On a rencontré toutes sortes d'assos et finalement, le feeling a très bien passé avec Thomas, qui gère l'ONG Saobienne. Et donc, eux construisent des écoles au Vietnam. Donc, c'est eux qui sont en lien avec les autorités locales. Et ça nous paraissait important, parce qu'on ne voulait surtout pas paraître comme les Occidentaux qui disent faire de l'humanitaire à distance dans un pays qu'ils ne connaissent pas. C'était surtout ce qu'on voulait ne pas faire.
Bien sûr.
Donc, en se reposant sur Thomas, sur cette ONG, ils sont structurés, ils sont en lien, eux, avec les autorités locales, et ils peuvent du coup définir les vrais besoins en termes d'infrastructures et de construction d'écoles. Donc généralement, c'est Nord-Vietnam, dans des villages très, très reculés et marginalisés, difficiles d'accès. Et donc, ils viennent faire 6 à 7 constructions par an. Et nous, on finance environ une école par an. Là, on a terminé la 4e cette année et on se lance sur la 5e école. Et donc, on reverse 2% de notre chiffre d'affaires à l'ONG pour la construction de ces écoles. Donc, okay. Ce sont des écoles, les enfants sont âgés de 6 à 11 ans, c'est 50-60 élèves par école. Ça regroupe un peu tous les villages environnants. Donc, ce n'est pas la cour de récré avec le panneau de basket comme on a chez nous, etc. Hein, c'est des salles de classe qui leur permettent d'avoir un lieu pour être scolarisés et étudier.
Ok. Et alors, petite question qui me vient comme ça, les 2% de chiffre d'affaires reversés, ça ne bouge pas, peu importe les années pour l'entreprise? C'est toujours une question, en fait, il y a plein d'entreprises qui veulent reverser et puis qui vont un petit peu annoncer. Et puis des fois, tu te rends compte que bon, ils reversent comme ils peuvent aussi, en fonction de la santé de la boîte. Enfin voilà, vous positionnez comment par rapport à ça? C'est 2%, peu importe ce qui se passe?
Ouais, 2% peu importe ce qui se passe, c'est ouais, voilà. Alors ça nous paraissait important de reverser le chiffre d'affaires et non les bénéfices, parce que à partir du moment où on communique dessus et que nous en plus c'est quelque chose où on veut vraiment être utile, on connaît pas les bénéfices qu'on fera à la fin d'une année, surtout au début d'une entreprise. Donc dire on reverse 10% de nos bénéfices, sachant que le bénéfice il est rarement officiel, on le communique rarement. Les gens ne peuvent pas savoir combien on a reversé. Et il se trouve que peut-être qu'on a communiqué toute l'année sur quelque chose pour qu'au bout du compte, on ne reverse rien à la fin de l'année. Donc, ce n'est surtout pas ce qu'on voulait faire. Donc, c'est pour ça qu'on l'a basé sur le chiffre d'affaires. Et donc, tous les trimestres, on prend le chiffre d'affaires du trimestre et on reverse 2%. Et on
okay.
fait un, voilà. Et donc, ça va dans différents projets. Là, le nouveau projet qu'on aimerait faire, il y a une école qui a été construite qui n'est pas raccordé à le village, n'est pas raccordé à l'eau potable et à l'électricité. Et donc, on aimerait du coup sortir un peu de cette construction d'école, aller plus loin sur ce village en question et pouvoir financer ce raccordement, soit d'élec, soit d'eau potable ou les deux, à voir combien on peut financer. Mais là, pour l'instant, c'est ce qu'on est en train de parler avec eux.
Ok, d'accord, super, très clair. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la vision que vous avez de l'entreprise? C'est-à-dire que vous avez créé cette entreprise parce que vous aviez envie d'impacter, donc du coup d'avoir cette notion de solidarité au sein d'une boîte concrètement que vous créez. C'est quoi aujourd'hui la vision? Et peut-être tu peux me parler aussi de la culture et de l'équipe. C'est-à-dire vous êtes combien aujourd'hui? Alors en plus, on est dans une phase particulière puisqu'on enregistre pendant le deuxième confinement 2020. Donc ça veut dire qu'il y a du télétravail qui est venu s'immiscer dans l'histoire. Mais est-ce que justement, tu peux aussi m'en parler d'ailleurs dans la culture? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà présent chez vous? Comment vous gérez un petit peu tout ça?
Alors, aujourd'hui, on est quatre. Donc, il y a donc Ronan et moi en tant qu'associés, et on a deux salariés. La première est arrivée en 2019, c'est Anaïs, qui est la responsable communication. Et depuis septembre 2020, il y a Régis qui nous a rejoint en tant que responsable e-commerce web marketing. Donc nos bureaux sont basés à Nantes. Tu parlais de télétravail, nous c'est quelque chose qu'on a tout de suite fait. Moi j'ai toujours été un gros fervent du télétravail, y compris quand j'étais moi-même salarié. Donc c'est quelque chose qu'on faisait déjà et qui sont même d'ailleurs dans les contrats de travail. On dit
Ok.
voilà que c'est acté, possibilité de faire du télétravail. Il n'y a pas de règles, c'est en fonction des besoins de l'entreprise et des salariés. Donc, pour avoir une meilleure gestion de vie pro, vie perso. Donc, ça, le confinement pour ça ne nous a pas du tout chamboulé. Même si passer d'un télétravail partiel à un télétravail total, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur. Le digital remplacera jamais le présentiel et le rapport humain, quoi. On a besoin de ça pour la synergie d'une équipe. Donc la culture d'entreprise, moi ce qu'on essaie de faire depuis le début, c'est que nos salariés soient tout simplement bien heureux dans l'entreprise et qu'ils se sentent libres. Ça me paraît important. C'est un peu les nouvelles entreprises, le management moderne, etc. Donc il n'y a pas d'horaire de travail, en tout cas
Oui,
fixé,
pas
délimité.
défini. Oui, c'est pas du
Voilà, c'est ça. C'est
9h-18h.
ça. Si la personne n'est pas du matin comme moi et qu'elle a envie de venir commencer le boulot à 10h, eh ben, elle vient à 10h. Et de toute façon, il y a une relation de confiance, donc il n'y a aucun souci. Idem, si elle veut partir plus tôt, elle part plus tôt. L'idée, c'est de responsabiliser les gens sur leur mission, sur leur tâche. Et quand on est une petite entreprise, de toute façon, on a forcément plein de choses à faire et on a forcément, voilà, on peut pas se cacher derrière quoi que ce soit. Donc, chacun a responsabilité sur ses missions et chacun s'organise pour faire au mieux ses missions, suivant son planning, sa manière de travailler, sa gestion vie pro, vie perso, etc. Donc, c'est de l'autonomie dans le travail. Ça peut ressembler un peu à des postes de freelance en entreprise, même si évidemment après on essaye, et plus maintenant, voilà, on était deux au départ, on est quatre maintenant. On essaye maintenant de plus en plus aussi de structurer les choses pour voilà, avoir une vraie synergie d'équipe
Oui,
et
et rester
trouver le
dans le
juste
même
milieu, quoi.
bateau,
C'est ça,
bien sûr.
exactement.
Ok.
Donc voilà comment on voit tout ça. Et après, avec ce que donc il y a un peu donc nos salariés à Nantes, mais on a les coopératives au Vietnam qui sont pas nos coopératives, hein, c'est des sous-traitants. Et là aussi, elles sont libres de travailler ou pas avec nous et d'arrêter de travailler avec nous si elles veulent. Et on a voulu là aussi donc travailler sans intermédiaire en direct pour avoir cette relation de transparence et de confiance. Et donc maintenant, quand on va dans les villages. Donc Ronan, lui, donc là en ce moment c'est un peu particulier, mais c'est lui qui s'y rend régulièrement pour gérer la production. Et moi j'y vais généralement une fois par an. Et là d'ailleurs on doit amener nos salariés au Vietnam. Et
Okay.
donc quand on va dans les villages, on loge chez eux, on mange avec eux, on est invité aux fêtes du village, aux naissances, etc. Et ça fait donc maintenant 4 ans qu'on les connaît. Et c'est ce qu'on préfère parce que c'est pour ça qu'on a créé Ngo et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers ces artisans-là, quoi, pour ces moments.
Bah oui, bien sûr. Et du coup, comment vous voyez là le développement? Alors, vous avez lancé un, là, il y a en ce moment un sac en précommande, enfin un backpack
Ouais.
en précommande. Comment vous imaginez le développement, la suite? Tu disais que là, il y avait eu aussi une montée en puissance depuis 2018. de l'entreprise. Donc, ça vous a permis de faire déjà deux recrutements. Comment vous voyez un peu la suite là ? Comment se porte aussi le développement dans la période qu'on vit, mine de rien ? Comment vous arrivez à adapter un peu le business en ces temps et à toujours conserver votre culture ? Parce que on peut aussi des fois, la question de ce podcast, c'est comment on fait pour allier business à impact positif ? Et du coup, il y a des fois où le stress du business peut aussi faire un peu oublier l'impact positif. Donc, dans cette longue question que je viens de poser, il y a aussi cette question, comment vous faites pour garder votre cap sur cette valeur intrinsèque que vous avez, quoi.
Alors, tu parlais de la campagne de précommande. Jusqu'à maintenant, on a toujours vendu que de la chaussure. Là, c'est la première fois qu'on sort un produit en propre qui n'est pas de la chaussure. Donc, le sac à dos fabriqué à partir de matières recyclées qu'on vient de lancer sur Ulule ce sera jusqu'au 3 décembre. Pour autant, la volonté, c'est de rester une marque de chaussures. Ça va venir, ça vient en accessoire. Pour l'instant, ça ne va pas se retrouver en magasin, on reste en e-commerce dans un premier temps. Mais on veut rester avant tout une marque de basket avant d'être une marque avec voilà, multi-produits. Ce n'est pas le but en tout cas pour le moment dans le développement. Et tu parlais justement de comment corréler l'évolution de l'entreprise et les valeurs. Et je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a un risque dans toute entreprise qui se développe d'oublier finalement les valeurs du début. Et pour justement ne pas en arriver là, tout simplement, notre but, ce n'est pas de grossir pour grossir. Jamais on a aspiré à demain avoir une entreprise avec 100 salariés, d'être présent dans tous les pays du monde. Ce n'est absolument pas le but. Et surtout, on veut garder, comme tu disais, nos valeurs et ce pourquoi on a créé l'entreprise avant tout. À titre d'exemple, il y a un an de ça, on avait été approché par une agence qui nous proposait de développer une sorte de franchise Engo au Japon. Donc, eux géraient tout. Ils géraient toute la production. Ils avaient prévu de le faire pas que sur des chaussures, justement, hein, quelque chose de multi-produit. C'était une grosse agence, ils avaient plein de marques, donc ils allaient tout de suite inonder commercialement le Japon. Et c'était 50-50, donc c'était clairement un moyen hyper facile pour nous de gagner beaucoup, beaucoup d'argent en faisant pratiquement rien. Et on a refusé ce contrat parce que c'est eux qui géraient la production. Et donc, si c'est eux qui gèrent la production, on oublie complètement ce que nous, on s'était donné comme mot d'ordre, c'est de suivre nous-mêmes, sans intermédiaire, la production avec les artisans, avec l'atelier d'assemblage. Et que pour nous, la meilleure transparence, c'est de dire « Ok, on a les certificats, on a tout ce que vous voulez. » Mais ça, pour moi, ce n'est pas un gage de confiance, de sécurité. Ce qui compte avant tout, c'est que Ronan, à tout moment, il peut aller voir la production de ses propres yeux. On peut prendre des photos, on peut prendre des vidéos. Et c'est ça, en fait, ce qu'on peut garantir aux clients, mais même pour nous-mêmes, de pouvoir se regarder dans une glace et dire « Ok, on sait comment ça fonctionne. » Et donc, cette agence-là, si on travaillait avec eux, on perdait ça. On n'aurait pas pu savoir ce qu'il en était réellement, même s'ils allaient nous amener des garanties. Mais dans la négociation, on n'a pas réussi à vouloir qu'ils travaillent avec nos fournisseurs ou au moins avec des fournisseurs au Vietnam qu'on aurait pu rencontrer. Donc, on a dit « Non, c'est non ».
Okay.
C'est non, et du coup, là, c'est pour, tout ça pour illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure.
Ah bah oui, complètement, c'est hyper courageux et ça montre bien votre positionnement et le fait que voilà, il y a aussi des décisions courageuses à prendre. Et quand il y a l'appel, comme tu dis, de « tiens, là, on va gagner beaucoup », et puis on peut se faire plein de raisons, de « attends, ça va gagner beaucoup, on pourra financer plus de projets ». Ouais, mais non, parce que c'est pas le projet, quoi.
Non, le projet, c'est de rester en adéquation avec nos valeurs, même si, évidemment, pour qu'une entreprise continue d'exister, et même pour notre plaisir personnel, on a des projets en tout genre. On a des projets, là, on a eu un projet de développement en Europe depuis l'année dernière, et c'est un projet qui nous tient à cœur. Donc, évidemment, quand tu as des projets comme ça, l'entreprise grandit, etc. Mais c'est quelque chose qui est maîtrisé, contrôlé, déjà. Et puis c'est trouver la bonne adéquation entre... On a des projets pour notre plaisir et pour que l'entreprise continue d'exister, et voilà. Mais pas non plus tomber dans le too much où le seul but de l'entreprise c'est de grossir en oubliant ses valeurs, surtout pas.
Oui.
Donc si l'entreprise demain elle doit stagner, mais qu'on a encore notre clientèle, qu'on est capable de se payer nous et nos salariés, et bah, elle stagnera. Et c'est pas
Et
grave.
c'est ce que j'allais te demander d'ailleurs, parce que sur ce genre de structure, justement de petite structure, la rémunération des dirigeants, c'est souvent une question. À quel moment vous avez réussi à commencer à vous rémunérer? Ou est-ce que c'est d'ailleurs encore une interrogation?
Ronan, très vite, parce que donc moi j'ai eu rupture conventionnelle, donc j'ai eu 2 ans de chômage. Enfin, on a la chance d'avoir ces dispositifs-là en France pour aider à créer une entreprise. Ronan, lui, vu qu'il avait travaillé au Vietnam, il n'avait pas le droit au chômage. Au tout début, il continuait de donner des cours. Il habitait au Vietnam, donc continuait de donner des cours d'anglais et de français au Vietnam. Très vite, on a commencé à dégager une petite rémunération pour lui uniquement, voilà, parce qu'il pour remplacer finalement le droit au chômage que moi j'avais. Ensuite, depuis maintenant 2 ans, quasi 2 ans, on est rémunérés tous les deux dans l'entreprise, plus les salaires d'Anaïs et Régis. Donc on a 4 salaires aujourd'hui dans l'entreprise. Et ça s'est fait du coup petit à petit, quoi. D'abord un salaire, puis deux, puis trois, et maintenant quatre.
Ok. Et comment vous voyez votre stratégie de financement? Comment vous avez financé le début déjà? Alors, j'ai l'impression que quand même tu étais en poste, donc ça pouvait aider aussi à sécuriser un peu ça. Cela dit, vous avez démarré avec combien, si c'est pas indiscret, hein, tu me dis. Mais c'est toujours intéressant en fait pour des gens qui écoutent de savoir bah, concrètement, là quand j'étais avec Merci Raymond, il disait qu'au final, il a commencé l'activité avec 5 000 euros. Donc ça permet aussi de se rendre compte, et aujourd'hui voilà, ils sont 30, etc. Ça permet aussi de se rendre compte un petit peu de voilà comment on démarre une entreprise comme ça. Bon, faut payer les voyages, là dans votre cas.
Alors moi en plus c'était des sujets qui m'intéressent, parce que vu que je travaille en cabinet d'expertise
Bah
comptable,
oui.
toute la partie gestion financement, c'est ce que je faisais, c'est ce que je fais encore aujourd'hui, hein, c'est moi qui m'occupe de ça. On avait 25 ans, clairement on n'avait pas beaucoup d'argent de côté, donc on n'a pas mis grand-chose dans l'entreprise. On était de mémoire, ouais, autour de, je crois qu'on avait mis 6 000 euros, 3 000 euros chacun. Il me semble qu'on avait mis 1 000 euros chacun au capital, ça c'est sûr, et on avait dû mettre 2 000 euros supplémentaires chacun en compte courant. Donc on a dû commencer là-dessus pour les premiers frais. Ensuite, c'est cette campagne de crowdfunding qui nous a financé la première production. C'est comme ça qu'on a financé la première production. Très vite, on a eu besoin de refaire une nouvelle production. Là, on est passé par Initiative Nantes notre banque. Donc là, c'était encore des petits emprunts. Et en fait, vu que l'entreprise grandissait rapidement, très vite, on avait besoin de revoir nos sources de financement. Donc on a eu ensuite la nouvelle campagne de crowdfunding. Et c'est après cette campagne, on a commencé à rentrer aux Galeries Lafayette, dans beaucoup de magasins et notamment des grandes enseignes. Donc ça voulait dire plus de volume, plus de production à avancer, parce que quand nos conteneurs partent du Vietnam, on a payé 100% du conteneur. Ensuite, il y a un mois en mer. Et ensuite, soit on les vend sur le site internet, donc là c'est un paiement comptant, soit en magasin, et ensuite, pas en magasin, on est payé environ 60 jours après la livraison.
Oui.
Donc, c'est peu besoin d'être expert comptable pour voir qu'il y a un décalage de trésorerie énorme entre le moment où on paye le conteneur et le moment où on récupère l'argent des Galeries Lafayette ou d'autres magasins. Il faut le financer. Et donc, quand on a eu ces questions-là, on s'est tourné vers Réseau Entreprendre.
OK.
Donc, on est lauréat Réseau Entreprendre depuis début 2019. Ils nous ont beaucoup accompagnés là-dessus. En plus de nos deux banques, donc la Banque Populaire et la BNP. On a fait un dernier levier financier en début d'année avec France Active, la CCI et la BNP pour complément bancaire.
OK.
Donc en fait, voilà, ça a été finalement, en fait, tous les ans, on retournait un peu voir les banques en disant, bon, bah là, on a fait x2, on a fait x3, on vous ressollicite une nouvelle fois. Et à chaque fois, ils ont répondu présent. Ça, franchement, on a vraiment pas à se plaindre. Peut-être que mon passé d'ailleurs a aidé aussi, hein, dans tout ça.
Sans doute.
Mais voilà, pour financer du BFR, je ne m'attendais pas à que ce soit aussi faisable facilement. Donc
Et puis par les
c'est
banques, en
bien.
fait, oui, c'est ça qui est marrant, parce que du coup, vous n'êtes
Ouais.
pas allé chercher d'investisseurs.
Non. Alors, on s'est posé la question, on en a rencontré, justement au moment, en début d'année, là, enfin, c'était du coup fin 2019, quand on savait qu'il fallait qu'on aille chercher des montants plus importants. On allait chercher entre 400 000 et 500 000 euros de financement.
Ok.
Donc sur ces montants-là, c'était difficile. Enfin, on ne savait pas si la banque, avec les autres partenaires, allait pouvoir nous financer. Donc on a quand même rencontré d'autres investisseurs. Mais ça rejoint le débat qu'on disait tout à l'heure, c'est que nous, tant qu'on peut, on veut garder la mainmise sur notre entreprise. On veut rester tous les deux à 50-50 au capital pour une logique d'indépendance, de liberté, même si aujourd'hui, il y a plein de business angels qui ne se mêlent pas de l'entreprise, qui veulent juste aider et puis voilà. Mais pour nous, ça, c'est une solution de dernier recours. C'est si
Oui.
vraiment on n'a plus d'autre choix. Et il se trouve qu'on avait d'autres choix parce que les banques voulaient bien nous suivre. France Active, Réseau Entreprendre, la CCI, la BPI, enfin voilà, tous ces acteurs économiques voulaient bien nous suivre. Donc on s'est dit, bah, nickel, ils nous accompagnent. On a ce qu'il faut pour continuer notre développement et notamment nos embauches, etc. Et en plus, on garde le contrôle du capital
Oui, donc
et
c'est
d'entreprise.
exactement ce que vous vouliez. Et
Exactement.
sachant qu'ils vous ont suivi, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ne vont pas suivre en fait, hein, c'est aussi parce que vous pouviez leur montrer une activité qui avait une croissance en tout cas soutenue,
Ouais.
où c'était solide, où vous saviez gérer aussi votre entreprise mine de rien et les dépenses, j'imagine. Enfin, je pense que ça a quand même dû jouer pour pouvoir être
Ouais, clairement.
entouré.
Si on, enfin, si on avait demandé ne serait-ce que 200 000 euros au début du projet, on ne les aurait jamais eus.
Oui, c'est ça, c'est pour ça.
Le tout premier emprunt qu'on avait pris en 2017, c'était 15 000 euros à la banque et 15 000 Initiative Nantes. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes montants. Donc ça passait. Et vu qu'on a fait les choses petit à petit, bah là, pour demander entre 400 et 500 000 euros, bah on avait plusieurs bilans, des bilans qui étaient en augmentation ou ils étaient positifs. Et donc voilà, on pouvait s'appuyer sur tout un tas de choses, des contrats commerciaux, etc., qui rassuraient les partenaires économiques. Et évidemment, moi, le fait que j'ai travaillé pendant quasi 5 ans en cabinet d'expertise comptable, ça rassure sur la gestion de l'entreprise. Et sur les chiffres que j'apporte, quoi. C'était des
Oui.
choses où j'avais l'habitude de cette relation avec les banques.
Et
Donc
alors, est-ce que ça me fait penser, parce que tu parles donc de 400-500 000 euros, pareil, je double les questions généralement, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais du coup, je vais encore le faire, parce que ça m'amène deux questions. La question de bah, concrètement, c'est pour financer quoi? C'est quoi le plan avec cette somme-là? Et petit rétro-pédalage avant sur. Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement en communication, surtout que vous étiez que vous deux, puis après vous avez eu quand même votre responsable com, mais en stratégie de partenariat, de com, de marketing, pour pouvoir développer l'entreprise. Concrètement, vous avez fait quoi dans les premiers temps? Parce qu'un e-commerce
Alors,
aujourd'hui, ce n'est pas forcément aisé. Vous avez
non,
aussi
c'est
fait
clair,
du coup des
ça.
partenariats avec des magasins. Comment vous avez fait tout ça en fait?
Alors, depuis le début de l'entreprise, le but c'était d'être à la fois présent en B2C et en B2B, donc en magasin et sur le e-commerce. Clairement, du e-commerce, c'est pas juste on lance un site et puis c'est bon, ça marche, voilà. Il y a pas mal d'investissements à faire pour que le site soit bien référencé et fonctionne. Nous, on n'était pas du tout dans le milieu de la communication, Renaud et moi. Même moi, à titre perso, les réseaux sociaux, j'ai horreur de ça. Donc, tu vois que de ce point de vue-là, on partait de très loin. Et donc, très vite, on s'est dit, bon, bah, il faut que s'il y a un poste dont on a besoin, c'est quelqu'un qui va gérer les réseaux sociaux et la stratégie de communication. Donc, au début, on ne pouvait pas embaucher, donc on a eu des stagiaires. Anaïs, d'ailleurs, on l'a eu en stage pendant 6 mois avant de pouvoir l'embaucher en CDI. Mais depuis le début, la volonté, c'était de trouver quelqu'un à plein temps pour gérer ça.
Ok.
Et depuis que Anaïs est arrivée, ça a tout changé. Elle a mis en place une stratégie de com sur les réseaux sociaux, mais pas que, parce qu'elle est également photographe. Donc elle a revu aussi toute l'image de marque autour de la photo, des lookbooks, etc. Ce qui est extrêmement
Ah
important
bah
et qui
oui.
fait beaucoup de choses. Donc ça, c'est quand elle est arrivée début 2018 qu'elle a pas mal chamboulé les choses et on a vu une nette augmentation, une nette amélioration sur les réseaux sociaux depuis son arrivée, quoi.
Et est-ce que tu peux me dire un petit peu quelles sont les actions justement qu'elle a mises en place? Concrètement, est-ce que vous avez fait de la pub? Est-ce que vous avez fait du référencement naturel? Est-ce que vous avez fait de l'affiliation? Est-ce que du coup c'est vous plutôt qui aviez les contrats avec Galeries Lafayette ou ce genre de structure?
Ouais, ça sur la partie B2B, c'est moi qui ai continué
Ok.
de garder cette partie commerciale magasin. Et sur la partie communication, la première chose qu'elle a mise en place, c'est les visuels. On a On a fait un shooting avec une vidéo, avec des photos, pour avoir finalement de la bonne matière pour les réseaux sociaux. Parce que t'as beau être le meilleur community manager du monde, si t'as pas les visuels qu'il faut et le contenu qu'il faut, bah, tu fais rien en fait.
Oui.
Donc la première chose qu'elle a faite, ça a été ça. On a fait photo, vidéo, un gros shooting, et on a créé de la matière, donc créé du contenu. Ensuite, elle a pu ça s'en servir pour adopter sa stratégie sur Insta, Facebook, etc. C'est passé notamment par différents partenariats avec d'autres marques, avec des jeux concours, etc., pour échanger, partager les communautés. C'est des choses qu'on faisait peu avant son arrivée et qu'on fait beaucoup plus maintenant. Il y a eu de l'affiliation, effectivement. Elle est très fan des partenariats influenceurs, donc on a pu mettre en place pas mal de partenariats avec des influenceurs. Et maintenant, justement, via l'affiliation, on essaie de travailler avec eux sur le long terme et pas que sur une opération one shot comme on avait pu faire au début.
Oui.
Donc voilà différents exemples de
Carrément.
mise en place sur.
Est-ce que tu peux justement, parce que c'est un sujet qu'on a abordé avec Ferdinand d'Ecosia, les influenceurs, et qui
Ouais.
lui aussi a vraiment cette vision de. En fait, les influenceurs, il faut les voir comme des entrepreneurs et puis comme des
C'est
humains
ça.
aussi. Et donc concrètement, tu leur envoies un produit, tu leur demandes, tu essaies de tirer les prix vers le bas. Bon, c'est. Tout de suite, tu as une relation qui n'est pas hyper fun. Tu dis, bon, ça va, ils font pas grand-chose. Bon, voilà, y a pas une valorisation forcément de leur métier ou on ne reconnaît pas ça comme un métier. Là, c'est intéressant que tu parles du coup de faire des choses plus long terme. Est-ce que tu as un exemple de ce que vous avez pu faire avec un partenariat un peu plus approfondi avec un influenceur?
La volonté maintenant, quand on commence avec un influenceur où ça matche bien, parce qu'il faut aussi que ça matche bien entre les deux
Bien
communautés,
sûr.
c'est d'en créer, finalement que ce soit des vrais ambassadeurs de la marque. Justement, je parlais d'affiliation avec les Bloomers. Ça a été dans les premiers, il me semble, où on a mis en place l'affiliation avec eux. Et aujourd'hui, c'est parti en fait d'un jeu concours. Et maintenant, régulièrement, ils reparlent de nous sur leur réseau. Sur Insta, il y a même il y a une partie où on est toujours visible
Une
et ils
story
peuvent.
permanente,
Ouais, voilà, c'est
ouais.
ça. Donc, pour qu'il y ait un lien continu. Et on a donc là, en fait, leur communauté bénéficie d'un code de réduction de 10% sur notre site internet. Et ça permet de fidéliser leur communauté à eux et nous, du coup, de voir quel trafic elle nous ramène sur le site internet. Et voilà,
Bien sûr.
c'est du gagnant-gagnant, quoi. Et on aime bien cette relation-là. Et donc, maintenant, on essaie de la mettre en place à chaque nouveau partenariat.
Ok. Vous avez un budget dédié à tout ça ou c'est vraiment en fonction de la stratégie que Anaïs vous propose et des fois vous débloquez des budgets? Parce que ça peut être dur, pareil sur les petites structures, de réussir à maîtriser le budget communication ou marketing. Ça peut vite partir loin.
Ouais.
Et du coup, bah, on dit non, donc on ne fait plus rien. Enfin voilà, il y a une espèce d'équilibre à trouver. Comment vous gérez ça, cette notion de budget?
Alors, oui, il y a des budgets. Donc, justement, j'ai pas répondu tout à l'heure à ta question sur à quoi servaient les 400 000, 500 000.
Oui.
Quand on a créé ce besoin-là, ça répondait à un besoin concret avec des budgets, etc. Et donc, ça nous servait à créer de nouveaux produits et donc augmenter notre production, qui répondait du coup à l'augmentation de la demande. Embauché, donc Régis, qu'on a embauché en septembre 2020 en responsable e-commerce web marketing, et finalement répondre à tous ces besoins et tous ces différents budgets. Donc oui, il y a des budgets qui sont définis. Maintenant, on n'est pas la SNCF, donc si le
Oui.
budget doit être dépassé, il est dépassé, quoi. Entre le moment où on définit un budget début janvier et là où il y a plein de choses qui se sont passées en bien, en mal, etc. Les budgets, très souvent, ils peuvent être revus. Et le budget, effectivement, communication marketing, il en fait partie. Quand il y a eu le premier confinement, notre stratégie, ça a été de se dire, OK, pendant 2 mois, les magasins vont fermer. Donc, on va tout miser sur le e-commerce digital pour survivre, quoi,
Bien
pour
sûr.
compenser à tout ça. Donc, on a pris le risque d'augmenter les budgets. Augmenter les budgets référencement, augmenter les budgets Facebook Ads, Google Ads, augmenter les budgets influenceurs pour tout miser sur les e-commerce. Et donc là, je pense qu'on clôture l'exercice au 31-12. Je pense que le budget du mois de janvier, il va être complètement dépassé sur cette partie communication
Oui.
marketing. Mais oui, il y a quand même un cadre et après on s'éloigne plus ou moins du cadre suivant le contexte.
Ok. Oui, c'est de la bonne gestion en réalité, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'en parler parce que c'est une question, le budget marketing et com et digital, c'est souvent une question. Et donc, tu parles pas de publicité, vous faites pas de pub sur Facebook, Insta, etc. ou vous en faites un petit
Si,
peu.
si. Si,
Ouais,
si, on
vous en
en
faites.
fait.
Ok.
On en fait. On fait en gros les différentes choses, partenariats payants qu'on peut faire. Ça va être l'affiliation, ça va être les influenceurs, Facebook Ads et sur Insta également, et Google Ads. C'est
Ok.
les principaux axes qu'on fait et de communication payante. Et tu vois, justement, le budget nous sert surtout à mesurer l'investissement qu'il y a dans tout ça et les retours, parce qu'on peut très vite se perdre et mettre de l'argent un peu partout, et au final,
Oublier d'analyser si ça marche.
exactement. Donc voilà, donc c'est Régis et Anaïs qui suivent tout ça de près pour faire les choses intelligemment.
Ok, génial. J'en viens un peu à mes dernières questions, et notamment, est-ce que dans cette aventure qui a commencé du coup il y a 4 ans, tu as un échec à nous transmettre sur lequel tu as appris quelque chose?
Il y en a plein. Il y en a plein. Le premier échec, je pense, ça a été justement la communication. En fait, on n'était pas de ce milieu-là avec Ronan. Et au début, on a essayé de gérer nous-mêmes les réseaux, parce qu'on voilà, on pouvait pas prendre de nouvelles personnes, mais en se disant aussi peut-être à tort que les réseaux sociaux, on savait, c'est bon, on était sur les réseaux sociaux, on voyait comment ça marchait, on pouvait le gérer. Mais pas du tout, pas du tout, parce que déjà, c'est un métier à part entière. Et parce que on n'avait aucune strate, on n'avait aucune stratégie. Je pense que c'est pour ça que j'ai qu'il y a eu deux départs. C'est que le premier départ, entre le premier et le deuxième départ, ce qui a réellement changé, c'est la communication et les visuels. Je pense qu'on n'avait pas mesuré l'importance de tout ça, et notamment de mettre des bons budgets dans un bon photographe, un bon vidéaste, pour mettre en valeur et en avant le produit. Donc ça, c'est des erreurs qu'on a faites au début et qu'on fait plus, mais on a appris.
Et vous avez vu un impact direct sur les ventes. C'est-à-dire, il y a eu un
Ouais,
avant-après sur les visuels.
clairement. Il n'était pas net, mais je veux dire, sur le long terme, ça a clairement joué. Le deuxième échec, et ça, il est plus étonnant, c'est que je travaillais dans la gestion. Je sais très bien qu'un mot d'ordre dans la gestion, c'est ne pas utiliser sa trésorerie et aller chercher des fonds extérieurs. Le mot d'ordre, le nerf de la guerre dans une entreprise, et encore plus dans ce contexte-là, et c'est ce qui va faire que certaines entreprises vont survivre et d'autres pas, c'est la trésorerie de l'entreprise. Et comment ne pas puiser dans sa trésorerie, inutilement, bêtement, mais plutôt aller chercher des fonds. Et quand j'ai été du coup faire le premier emprunt, donc en 2017, on a demandé que 30 000 euros, 15 000 euros, je disais du coup à Initiative Nantes, et 15 000 euros à la banque. Et quand j'en ai parlé, j'étais encore dans mon cabinet à ce moment-là, et quand mes ex-patrons m'ont dit mais Kevin, c'est n'importe quoi, quand tu vas voir une banque, tu sais très bien que tu ne vas pas pouvoir aller la revoir 6 mois après, donc tu vas pour demander un vrai montant, quelque chose où tu as une vision long terme. Et ça a été une faute de gestion, clairement, puisque effectivement, 6 mois après, j'ai eu besoin de retourner les voir. Alors, ça l'a fait, mais ça aurait pu être un non,
Ah oui.
parce que. Ça a été une erreur. Quand on définit un besoin, il faut définir un besoin sur le long terme et grossir son besoin. Alors, pas trop non plus, il faut trouver le juste milieu.
Ouais.
Mais là, j'ai clairement été beaucoup trop. J'ai eu une aversion au risque et j'ai clairement pas pris assez de risques pour ça. Mais bon, voilà, parce que
Ouais, mais c'est hyper intéressant. Ouais. Et le
quand.
long
quand,
terme, toi, tu...
quand, quand
Non,
Ouais,
vas-y,
dis-moi,
vas-y.
dis-moi. Quand on conseille ça à ses clients et que ce n'est pas son argent, et quand c'est nous qui allons voir les banques et que c'est nous qui allons devoir rembourser tous les mois, ce n'est pas la même, mine de rien. Alors
Bah, tu
maintenant, j'ai
m'étonnes.
appris, hein, j'ai pas fait l'erreur une deuxième fois, mais mine de rien, ça a été un bon retour d'expérience.
Ah bah oui, tu m'étonnes, c'est hyper précieux de partager ça. Et quand tu parles de justement long terme, donc dans ce cas-là où tu vas voir les banques, c'est quoi le long terme pour toi? C'est un terme vague
On
et
fait. On...
précis?
On fait toujours un business plan sur 3 ans.
Oui.
Maintenant, clairement, aujourd'hui, savoir concrètement dans 3 ans, Non, c'est impossible.
Bah, c'est pour ça.
On essaye de le définir, on le matérialise, mais en vérité, la vraie gestion, elle est à l'année.
Oui.
Elle est aujourd'hui pour dans un an. Mais j'ai une vision concrète, précise, à dans un an. À dans 3 ans, il faut le faire pour monter un business plan, mais ça a le temps 1000 fois de changer. Et la preuve, tous les ans, on revoit notre business plan à 3 ans, parce que en bien ou en mal, hein, dans les deux sens, parce que bah, ça évolue tellement que c'est. Voilà. Pour moi, la
Oui.
vraie gestion de l'entreprise, elle est à 1 an. Et le long terme, quand déjà on parle à 3 ans, c'est déjà du bon long terme.
Oui. Après, c'est juste un cap, peut-être le business plan et le fait quand même que du coup, vous faites l'exercice de le revoir. C'est que ça permet aussi de
Ouais.
se reposer, de se reprojeter, d'avoir une vision, mais en étant conscient qu'il y a la vie et le mouvement qui fait que ça va forcément évoluer, quoi.
Exactement.
Ok. Est-ce que tu peux me partager les défis que vous avez à venir là, dans les temps qui arrivent?
Alors bah, là, le premier défi qu'on s'est donné, c'est mine de rien de lancer un produit autre que la chaussure. Donc, on a lancé la campagne Ulule de précommande mardi, donc jusqu'au 3 décembre. Ça, c'est un vrai défi pour nous parce que comment va réagir notre communauté à un sac à dos qui n'est pas voilà, ce qu'on fait depuis 3 ans, on faisait que de la chaussure. Donc ça, c'est un premier défi et ça va amener ou pas d'autres choses derrière. Et le défi de cette année, ça a été le côté éco-responsable. Au début du projet, on voulait donc le côté commerce équitable, solidaire, et on voulait aussi que nos chaussures soient éco-responsables. Donc notre première chaussure, on en a fait à base de chanvre. On a testé des teintures végétales, etc. Sauf que tout ça, c'est technique. Nous, on vient pas de la chaussure. Et même si les chaussures étaient très jolies, bah, il y avait des problèmes de déteinte. Et il faut que la chaussure reste avant tout solide et confortable. Donc, on a mis ça de côté en se disant qu'avec le temps, on arriverait à revoir les choses, y aller plus petit à petit. Et donc là, en 2020, on a sorti notre première collection de chaussures à partir de matières recyclées, plastique recyclé notamment, et idem pour les sacs à dos qu'on a en précommande en ce moment, ils sont conçus à partir de matières recyclées. Et donc ça s'inscrivait dans une démarche plus globale de se dire, ok, on produit des chaussures équitables et solidaires, mais on produit. Et on
Oui.
produit au Vietnam. Et bah, ça, c'est clairement pas écologique et on se revendique absolument pas comme une marque écologique. De ce fait-là, et on s'est dit bah, comment est-ce qu'on peut s'améliorer là-dessus et surtout comment est-ce qu'on peut mesurer tout ça. Maintenant, on a le recul nécessaire, on a plus de 3 ans maintenant, pour se dire auprès de toutes nos parties prenantes comment on peut mesurer notre impact. Donc là, on est en train de mesurer l'impact auprès des artisans. Est-ce que, voilà, donc c'est eux qui fixent eux-mêmes leur prix, mais bah, est-ce que eux ils considèrent que c'est équitable? Donc il y a des partenaires extérieurs qui font des enquêtes,
Ah,
etc.
super.
Pour bah, mesurer et pas que, enfin, à tout niveau le bien-être, leur plaisir de travailler avec nous et notre impact auprès d'eux, auprès du village. Donc nous, on sait par exemple là qu'au début, donc, elles étaient une coopérative. Maintenant, on travaille avec 3 coopératives. Elles sont une quarantaine de femmes à tisser alors qu'elles étaient 2-3 au début. Et elles ont pu du coup former de nouvelles femmes à ce savoir-faire de leur village ou des villages environnants. Donc ça crée un écosystème dans le village. Ça a créé l'émancipation de ces femmes, parce que c'est uniquement les femmes qui ont ce savoir-faire au Vietnam. Donc,
Ok.
elles ont leur propre coopérative répartie équitablement. Donc, mine de rien, bah voilà, ça joue énormément dans l'émancipation de ces femmes. Donc, on voit hein, tout un tas de choses. Et là, en période de Covid, où leurs autres clients, c'est essentiellement le marché du tourisme qui s'est totalement arrêté, et bah, on a été leur seule source de revenus. Et donc de se dire ça, non seulement ça a été un grand plaisir pour nous parce qu'on voyait le côté utile et c'est ce qui nous importe, et en même temps ça a mis aussi une pression en se disant bon bah là
C'est clair.
on peut plus se foirer quoi. Là
Ouais.
on a un devoir, on a clairement un devoir quoi. Donc voilà, donc on a lancé une mesure d'impact auprès des artisans, auprès des écoles pour dire bah sur le long terme calculer le taux d'analphabétisation, comment est-ce qu'il évolue dans le temps. Le nombre d'enfants scolarisés, enfin tout un tas de paramètres qu'on veut étudier pour voir l'impact réel de la construction de ces écoles. Et donc je reviens sur le côté environnemental, se dire là donc l'année prochaine on va faire un bilan carbone avec Tuvalu et le but c'est nous-mêmes d'apprendre, se dire bah, quel est notre bilan carbone et où et comment on peut l'améliorer.
Ah bah génial, je voulais te poser la question justement.
Ah oui, bah
Donc
voilà. Bah
vous avez lancé
j'ai...
ça, ok.
Ouais, voilà. Donc ce sera fait sur 2021. On sait que la plus grande partie de l'impact carbone, il vient de la production de matière. Ça ne vient pas du transport. Le transport, ça ne représente que 2% de l'impact carbone d'une production, même s'il n'est pas à négliger. Et c'est pour ça qu'on favorise le conteneur plutôt que l'avion, par exemple.
Ouais.
Mais là où on a vraiment un axe d'amélioration, c'est comment on fait pour ne pas utiliser de nouvelles ressources naturelles pour fabriquer des nouvelles matières, mais plutôt comment est-ce qu'on va traiter des matières déjà existantes ou des déchets pour, via le recyclage, recréer de la matière. Et donc ça, on aura bientôt les chiffres l'année prochaine, mais je pense que l'impact, il est avant tout là, et c'est pour ça que, on a lancé, nos baskets et nos sacs à dos en matière recyclée, cette année.
Et
Donc,
comment a réagi la clientèle? Parce que vous avez des gens du coup qui vous suivent. Est-ce que vous avez vu qu'il y avait un engouement ou un intérêt en tout cas pour ça? Ou est-ce que pour eux, tant que la chaussure est belle, ils la prennent?
alors, un peu les deux. Il y a eu un engouement, notamment aussi des magasins qui ont la demande et qui avaient envie
Oui.
qu'on leur propose ce produit-là. Maintenant, il y en a plein, effectivement, ça reste le produit. Le domaine équitable et solidaire, c'est déjà bien et puis c'est un plus. Mais aujourd'hui, une matière recyclée, ça coûte à peu près 3 fois plus cher qu'une matière conventionnelle. Alors, est-ce que c'est la logique de l'offre et la demande ou est-ce qu'il y a une vraie logique de coût de revient derrière? Honnêtement, j'en sais trop rien, mais toujours est-il qu'on l'a payé 3 fois plus cher. Donc, évidemment, notre produit sort plus cher. Il sort à 15 euros plus cher. Même chaussure en cuir, elle sort à 15 euros plus cher que
Oui.
quand c'est fait avec des matières recyclées. Est-ce que ces mêmes personnes sont prêtes à mettre 15 euros plus cher pour des matières recyclées? C'est mitigé. Certains, oui, mais il y en a. Bon, bah voilà, le produit est beau. C'est équitable et solidaire, je ne suis pas prêt à mettre 15 euros plus cher pour avoir un produit recyclé. Donc
Oui.
c'est pas, ça ne fait pas l'unanimité, mais nous c'était notre volonté de le faire et on va continuer de le faire et on va essayer de l'automatiser maintenant dans tous nos nouveaux développements.
OK.
Et je pense qu'avec le temps, tout ça va. On voit bien, hein, la demande de recycler augmente, la technique et les procédés, on se réinvente sans arrêt. Donc ça va devenir, à mon avis, de plus en plus la norme et les coûts vont devenir de plus en plus proches de ceux qu'on a aujourd'hui sur
Oui.
des matières conventionnelles.
Oui, c'est vrai que là où tu parles de 15 euros, peut-être qu'en effet, votre clientèle, bah, ça va quand même jouer psychologiquement, que si en fait les prix de revient baissent et que du coup vous pouvez un peu baisser le prix public, si vous êtes plus qu'à 5 euros de différence, ce sera peut-être différent ou 5 ou 8
C'est
que
ça.
15 euros, quoi.
Ouais,
Et ce sera
exactement.
intéressant à suivre, oui, carrément.
Et une dernière chose sur du coup nos enjeux. Donc ça, c'est l'enjeu sur le domaine écologique. On est labellisé, certifié B Corporation depuis cette année, donc le
Génial.
label international B Corp. Et là aussi, c'était la volonté de se dire, eux vont nous permettre de nous poser les bonnes questions, et des questions d'ailleurs qu'on ne s'est jamais posées, pas que sur le domaine production, mais sur tous les domaines de l'entreprise. Ça touche à la gouvernance, ça touche au RH, enfin voilà, tout un tas de domaines. Comment est-ce qu'on peut s'améliorer, progresser, parce que c'est pas beau de faire les choses bien au Vietnam si c'est pour faire de la merde en France. Donc comment dans toutes les dimensions de notre entreprise on arrive à s'améliorer. Et pour ça, il faut des fois que aller chercher les questions parce qu'on va pas se les poser naturellement. Et donc B Corp est un super label pour ça parce qu'il permet sur le long terme de s'améliorer.
Oui, et puis d'être entouré. Et effectivement,
Ouais.
vous gérez quand même une entreprise, donc il y a des fois où il y a des questions prioritaires parce que c'est le cas. Donc d'avoir un tiers qui va aussi peut-être un peu être faire le devoir de vigilance pour vous ou vous mettre des échéances ou quoi, c'est aussi intéressant dans ce
Ouais,
sens-là, quoi.
complètement. Et aussi tous les réseaux de donc réseau entreprendre par exemple.
Oui.
Et là, on vient d'intégrer DRO, donc les dirigeants responsables de l'Ouest, où voilà, c'est on partage avec d'autres chefs d'entreprise, on voit les bonnes pratiques que les uns ou les autres ont adoptées dans leurs entreprises, donc ça donne des bonnes idées. Et DRO va même plus loin, puisqu'il y a des ambitions avec des chiffres de réduction de gaz à effet de serre, etc., dans les entreprises de ce réseau. Collectivement, il faut qu'on arrive à tel résultat. Donc
Génial.
ça pousse les uns et les autres et ça crée des effets de synergie, donc c'est
Oui.
top.
Oui, c'est vraiment le collectif au service de l'impact aussi, parce que faire son truc dans son coin, des fois, c'est aussi un peu compliqué, quoi, de tout
C'est
suivre.
ça,
Donc,
exactement.
carrément. Ok, bah écoute, il me reste mes deux dernières questions habituelles. La première étant, est-ce que tu as un conseil à livrer aux auditeurs de ce podcast, de ton expérience d'entrepreneur à impact et de développement
Alors,
d'entreprise?
c'est toujours touchy les conseils, parce
Oui.
que loin de moi l'envie d'être moralisateur ou quoi que ce soit. Si je devais donner un conseil, ou j'en aurais plusieurs, c'est si vous souhaitez créer votre entreprise, souvent le plus dur, c'est de passer de l'idée à l'action. Pour moi, ça, il y a juste une chose qui permet de le faire, c'est avoir une certaine dose d'irrationalité. On nous apprend, pour ceux qui ont fait des études supérieures, à monter des business plans, et c'est très théorique, il faut faire une étude de marché, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais le problème de faire tout ça aussi des fois, c'est qu'on oublie, on est tellement concentré là-dessus, qu'au bout d'un moment, on se dit, bah non, c'est mort, en fait, ça ne le fera pas, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Et nous, si vraiment, et pourtant j'étais dans le domaine de la gestion, j'avais dû calculer le nombre de paires qu'il fallait vendre pour se dégager un salaire, etc., enfin, ou vraiment me focaliser là-dessus. Bah, peut-être qu'en fait, on n'aurait jamais créé Ngo. Et ce qui fait qu'on a créé Ngo, c'est bah, à un moment donné, on a mis cette aversion au risque de côté, on a été un peu irrationnel, on s'est dit, allez, qu'est-ce qu'on a à perdre en fait? On a 25 ans, on n'a pas d'enfants, on a envie d'adrénaline, de fun dans notre vie, bah, tentons-le, et puis au pire, on aura appris plein de choses. Et voilà, et bon, bah, aujourd'hui, ça fonctionne et on est une équipe de 4 personnes, donc c'est génial. Ça aurait pu aussi pas marcher, mais voilà, c'est cette prise de risque où on s'est dit, bon, allons-y, à un moment donné, il faut se lancer, on n'a rien à perdre. Donc c'est d'une, le côté irrationnel, de deux, se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir 50 000 euros pour lancer son entreprise. Nous, on l'a lancé avec, je disais tout à l'heure, 6 000 euros. Et aujourd'hui, il y a plein de sources de revenus extérieures, comme le crowdfunding, comme les partenaires qui peuvent être pas forcément bancaires, hein, les réseaux tels que Réseau Entreprendre, Initiative Nantes, etc., qui font des prêts d'honneur à 0%. Il y a plein de moyens de monter son entreprise sans avoir des fonds personnels. Alors, tout dépend évidemment quelle boîte on monte, hein, industrielle, c'est pas la même. Donc, c'est la deuxième chose. Et troisième chose, on parle beaucoup de RSE, y compris des entreprises historiques qui se mettent à vouloir avoir une logique RSE. Je pense que si elle est à l'origine du projet, si elle est pensée dès le début du projet, elle fera beaucoup plus sens et elle sera beaucoup plus partie intégrante. Et donc, j'encourage à tous les gens qui veulent créer une entreprise de se dire, bah, au-delà de mon entreprise, en fait, quel peut être mon apport à la société, quel peut être, en quoi je peux me rendre utile. Et je pense que toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, ont une possibilité d'avoir un apport. Alors, si c'est pas sur son activité, ça peut être auprès de ses salariés. Si c'est pas auprès de ses salariés, ça peut être auprès de parties prenantes, fournisseurs, clients, etc. Donc, comment est-ce que en fait, je peux avoir un impact positif dans mon entreprise? Et je pense que c'est un devoir maintenant, vu le contexte, de se poser la question et de pas juste monter une entreprise pour faire du business, quoi.
Oui,
Voilà,
revenir à la raison
c'est.
d'être dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, mais c'est quoi la raison de cette entreprise, quoi? Pourquoi elle
C'est
existe
ça.
au final?
Et
Ouais.
même si toutes les entreprises ne peuvent pas, l'activité ne peut pas être basée que sur la RSE, c'est pas aujourd'hui toutes les entreprises ne peuvent pas faire ça,
Bien
c'est pas
sûr.
la question. Mais sur toutes les secteurs que touche une entreprise, c'est ultra large, on a forcément la possibilité d'avoir un impact positif quelque part. Et c'est ça que je pense qu'il est important de se poser comme question.
Ok, génial. Eh bien, écoute, ma toute dernière question. Est-ce que tu as quelqu'un à me recommander pour ce podcast que tu penses pourrait être intéressant d'interviewer et qui partage son expérience ou qu'elle partage son expérience?
Alors boîte nantaise, hein, on est un peu chauvin à Nantes, donc je vais rediriger vers une boîte nantaise. Les Mini-Mondes, Quentin et Marine, ils ont lancé ça il n'y a pas si longtemps que ça, et donc c'est des jouets made in France en 100% recyclés. Et donc c'est un peu les premiers à se lancer dans le monde du jouet éco-responsable et local. Enfin, local, ça existait déjà, mais là avec. Ce domaine, cette question du plastique recyclé. Et je trouve que c'est un projet hyper intéressant. Et ils ont tout un univers autour, là aussi, du voyage, de l'aventure, avec un minivan, avec des histoires, etc. Il travaille avec Antoine Corbineau, qui est un illustrateur nantais très connu sur Nantes, et qui fait des super dessins avec un super univers. Donc voilà, les mini-mondes, je te conseille.
Ok, bah écoute, je vais regarder ça. En plus, je crois que tu m'en avais déjà parlé et je les ai effectivement,
Ah
je les
oui,
avais bien
c'est
notés, j'étais
possible.
allée regarder et ils étaient dans la liste, mais du coup, ils vont remonter en effet. Bah écoute, un grand merci pour cet échange et pour tous ces partages d'expériences. Et puis, bah, je te
Avec
dis à
plaisir.
bientôt.
Ouais, merci pour m'avoir donné la parole, c'est top, ça m'a fait plaisir.
Trop bien. Salut. Voilà pour ma causerie avec Kevin Goujon. J'espère que ce contenu vous a plu et vous a apporté des clés pour votre business positif, votre politique RSE ou tout simplement des clés de réflexion. Si vous avez aimé ce podcast, ça m'aiderait beaucoup que vous mettiez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou toute plateforme d'écoute que vous utilisez et que vous en parliez à au moins une personne autour de vous qui a ou qui bosse pour un business positif ou bien qui a ou qui bosse pour une entreprise qui se pose des questions sur son impact. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Mélodie Schmoss, Mélodie avec un Y, si vous avez la moindre question ou remarque. Je suis toujours à l'écoute d'axes d'amélioration. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.